Je vous invite à entendre cette lecture. Nous allons traiter le sujet ce matin de l'unité, sujet que j'ai déjà assez ébauché la semaine dernière avec dans le cadre de la réunion du Conseil. Voilà ce que Paul annonce aux Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou de parti, de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Comme chacun le sait, par expérience surtout, je pense, que les relations humaines ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Elles restent quelque chose de compliqué. Et si ça peut vous consoler, notamment dans le cadre de l'Église, un pasteur un jour sud-américain avait dit ceci il y a très longtemps, on ne choisit pas ses frères et ses sœurs, sous-entendu dans l'Église. Je crois que la communauté chrétienne, eh bien, n'échappe pas à cette règle. On sait aussi que la communication est pour cette raison essentielle. La bonne, parce qu'elle peut être aussi mauvaise ou malheureusement inexistante, comme ça se passe dans certains foyers et dans l'Église. Au début de la lettre qu'il adresse aux chrétiens de l'Église de Philippe, Paul évoque les sentiments très forts qu'il a pour cette communauté, ainsi que sa situation personnelle. Il les exhorte à la fin du chapitre 1 à vivre d'une manière digne de l'Évangile. En demeurant ferme, dit-il, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et cela, malgré l'opposition et la souffrance. Il les exhorte une fois de plus ici à rester unis. Et il le fait sur la base des réalités qui devraient être vécu et manifeste au sein de la communauté. La consolation en Christ, leur dit-il, le soulagement dans l'amour, la communion d'esprit, la compassion ou la miséricorde. Si ces réalités existent encore, ou même quelque peu au milieu de vous, semble-t-il leur dire, il est donc possible d'espérer un changement. Alors, mettez-les donc en œuvre afin de rendre ma joie parfaite. Et ici, c'est en tant que père spirituel qu'il s'adresse à eux. La situation de l'église de Philippe était quelque peu similaire à celle de l'église de Corinthe, qui était divisée à cause des rivalités, des préférences en faveur de Paul, de Céphas, Pierre et d'Apollos. Heureusement encore au sein de la communauté qui l'ont resté, qui se réclamaient de Christ. Paul leur écrivait pour les ramener à la raison en leur disant ceci. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Alors, on va encore un peu plus loin, les communautés de Rome n'étaient pas en reste en lien avec ces problèmes-là. Paul leur écrivait pour, entre autres, apaiser les troubles et prévenir d'une division au sein des communautés. La situation dans les communautés de Rome était due aux prises de position entre ce qu'il appelait les forts d'un côté, peut-être ceux qui se pensaient forts aussi, et les faibles. Et c'est en lien avec des questions comme les restrictions alimentaires, les respects des jours, des habitudes qu'ils avaient auparavant. Ils s'adressaient donc aux forts en leur demandant de faire bon accueil, et plus que cela, de ne pas mépriser ceux qui étaient faibles dans la foi, en tout cas ceux qu'ils considéraient comme faibles dans la foi, mais aussi de supporter leur faiblesse en ne cherchant pas à faire ce qui leur plaisait. Ils devaient ainsi éviter d'être une occasion de chute pour ces derniers. Ce qui préoccupait l'apôtre, c'était encore la question de l'unité à préserver dans la communauté. Car, dit Paul, en lien avec ces questions qui divisaient l'Église, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière, dit-il, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi termine-t-il son propos en disant « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, pas la mienne seulement, mais celui de mon frère et de ma sœur. » La prière du Seigneur Jésus, ce qu'on appelait communément la prière dans Jean 17, sacerdotale, c'est-à-dire une prière d'intercession du Seigneur, quelque temps avant sa crucifixion, en faveur de l'unité de son peuple, à l'instar de la sienne avec le Père, nous rappelait déjà l'importance de l'unité et de la communion. Alors, sur cette question de communion et d'unité, frères et sœurs, bien-aimés, nous devons y veiller particulièrement, je dirais même comme le lait sur le feu, même s'il doit nous en coûter personnellement quelque peu. Y veiller afin aussi, et c'est une réalité à laquelle il faut prendre en compte, à ne pas donner accès à notre ennemi de toujours, celui qui vient brouiller les cartes, le diviseur. Et une fois que le diable a réussi à diviser l'Église, parce qu'il va entrer par une porte ouverte à cause de ceci ou à cause de cela, eh bien, il pourra s'en aller plus loin. Nous avons un terme dans l'armée qui est un terme très fort, c'est cohésion. Un des premiers mots que j'ai dû apprendre d'ailleurs. Nos militaires, à l'occasion de leur formation, sont instruits sur cette question qui est une question fondamentale. Vous comprendrez pourquoi. J'ai pu constater son importance lorsque j'étais sur zone avec les commandos montagne en Afghanistan. Les commandos de montagne sont des petits groupes de 6 à peu près, soudés, où chacun a un rôle particulier. Là, je pèse mes mots. Chacun étant aussi appelé à veiller sur l'autre durant les sorties, c'est-à-dire durant les missions. Très, souvent très dangereuses. Mais il aurait suffi qu'il y ait un maillon faible dans le groupe pour remettre en question la cohésion de ce dernier. Mais plus grave encore, il ferait non seulement échouer la mission, mais mettrait également en danger de mort tout le reste du groupe. Je sais de quoi je vous parle. Je pense que dans l'Église, il doit en être ainsi. C'est dire à quel point la cohésion, l'unité est importante, comme dans l'Église. N'oublions pas, frères et sœurs, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que nous sommes engagés en tant que chrétiens dans un conflit spirituel. La vie chrétienne, c'est une des choses les plus importantes, peut-être la plus importante qui soit pour un être humain sur la terre. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, frères et sœurs. Dans la vie chrétienne, d'ailleurs, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, armons-nous de cette pensée, le frère l'a rappelé tout à l'heure. De tout temps, il y a eu des conflits dans l'Église, mais ça ne légitime aucunement ce que nous faisons parfois dans notre comportement, les uns vis-à-vis des autres. La vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas une vie de bisounours. Il faut nous enlever cela de l'esprit. Nous avons des sentiments, nous avons de l'amour. Mais lorsque nous parlons de l'amour, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne soupçonne pas le mal. Oui, bien évidemment, mais l'amour est averti. L'amour n'est pas aveugle comme dans le monde. Nous avons du discernement, nous devons avoir de la sagesse aussi. Et par amour, eh bien, nous devons veiller sur notre comportement et sur la relation que nous avons avec le frère et la sœur. Ici, chez les Philippiens, c'est l'orgueil et les intérêts personnels de certains, engendrés par un esprit de parti et de vaine gloire, qui menaçaient l'unité au sein de la communauté. C'était leur problème. La question de l'humilité nous interpelle dans un premier temps. C'est une denrée rare. Et aujourd'hui, dans la société, je pense, comme dans notre Église, c'est une vertu capitale. Parce que cette humilité, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur cette question-là, le Seigneur le sait, parce qu'elle nous fait souvent défaut. Mais c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas très à la mode dans nos milieux aujourd'hui. Un peu comme le mot péché, dans certains milieux religieux qui se disent chrétiens, c'est compliqué d'entendre ça. Le mot repentance, le mot sanctification, le mot consécration, et j'en passe, qui n'ont pas toujours bonne presse dans certains milieux. Et c'est dommage. Mais il faut toutefois reconnaître ici qu'il n'est pas toujours facile de considérer les autres comme étant au-dessus, comme étant supérieurs à nous-mêmes. En tout cas, ce que Dieu nous demande, et il faut parfois du temps, c'est de se manifester, c'est d'agir de cette manière-là. Et parfois, il faut certaines épreuves de la vie afin d'en saisir toute l'importance. Je pense à un témoignage en Nouvelle-Calédonie, notamment dans le cadre de la coutume. La coutume kanak en Nouvelle-Calédonie est constituée par un ensemble de règles. C'est son identité qui régissent les relations, la place et le rôle de chacun au sein de cette société. C'est pour moi, la société kanak, c'est ça. C'est pas ce qu'on a vu au travers des désordres qui ont eu lieu il y a un certain nombre de mois en arrière. Et il est toujours rappelé en préliminaire. C'est une caractéristique. Dans le cadre d'échanges et de prises de parole à l'occasion de rencontres des événements qui ont lieu dans le milieu kanak, deux éléments de langage qui sont incontournables, le respect et l'humilité. Vis-à-vis du lieu et des personnes rencontrées, ces deux notions restent une constante dans la vie quotidienne. C'est un mode de faire et de penser. J'ai toujours été percuté par ça. Pourtant, j'évolue dans ce milieu depuis tant d'années, mais je suis toujours très touché. Quand il y a des pasteurs beaucoup plus âgés que nous, qui ont eu une carrière au service de Dieu, et qui utilisent ce langage lorsqu'ils se présentent devant les autres, notamment lorsqu'ils sont plus jeunes. Et ça, ce sont des vertus, je pense, qui sont indispensables, le respect et l'humilité. Et je pense, frères et sœurs aussi, c'est ce que, nous sommes appelés à vivre au sein de notre communauté. Alors, la question des intérêts personnels nous interpelle aussi, parce que nous sommes tous, à un moment donné de notre vie, confrontés à établir des priorités pour nos vies et pour tous ceux que nous aimons, et c'est légitime, c'est normal, parce que nous sommes des gens responsables. Paul nous rappelle toutefois que ceux d'autrui, les intérêts d'autrui, sont aussi à prendre en considération, que nous devons aussi penser aux autres. Et c'est d'importance, comme je l'ai déjà esquissé tout à l'heure, car nous faisons partie d'un seul corps, c'est l'Église. L'analogie du corps dans 1 Corinthiens 12, c'est quelque chose d'extraordinaire, où chaque corps est différent. Certains sont plus honorés que d'autres. Chaque corps a une fonction. Mais Dieu, dans sa sagesse, a permis quoi? Vous savez, frères et sœurs, qu'il y ait une interdépendance des membres les uns avec les autres. De faire en sorte que des membres ne peuvent pas se passer des autres, parce qu'ils sont interdépendants les uns des autres. Et je pense que dans l'Église, c'est pareil. Nous sommes interdépendants les uns des autres et nous avons besoin des uns des autres. À tel point que Paul dit que lorsqu'un membre du corps souffre, eh bien, tout le corps souffre. C'est ce sentiment qui doit nous animer. Et lorsque quelqu'un se réjouit, eh bien, tout le reste, comme ça a été le cas hier et aujourd'hui, par rapport au baptême de nos sœurs, eh bien, tout le reste du corps se réjouit. Il y a une expression qui est très importante et qui revient plus d'une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament, c'est l'expression « les uns les autres » qui est utilisée pour évoquer cette réalité. Aimons-nous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, et j'en passe, pour nous rappeler cette nécessité est bien de marcher et de considérer que nous faisons partie d'un seul et même corps. Alors les intérêts de Dieu, qu'en est-il aujourd'hui? Il peut nous arriver, si l'on n'y veille pas, de confondre nos propres intérêts avec ceux du Seigneur. Il arrive parfois que les intérêts de l'œuvre ne soient pas en adéquation avec les nôtres. Cependant, frères et sœurs, la crainte de Dieu, ce sentiment qui doit nous animer constamment, eh bien, nous permettra d'avoir le discernement nécessaire. Alors, en résumé, les positions partisanes dues à des considérations de personnes chez les Corinthiens, les différences doctrinales, l'orgueil et les différences doctrinales à Rome, l'orgueil et les intérêts personnels ici aux Philippiens avaient troublé ces trois communautés et remis en question leur unité et attristé le cœur de Dieu, je le rajoute. Après avoir interpellé ses lecteurs ici, Paul leur propose de regarder au seul modèle valable, celui du Christ. Vous savez, frères et sœurs, nous serons toujours appelés à décevoir les autres. C'est ainsi. De manière volontaire ou involontaire. Les autres seront toujours appelés à nous décevoir de manière volontaire ou involontaire. Mais il en est un qui ne nous décevra jamais, c'est le Seigneur. Et Paul le rappelle à l'exemple de Christ qui s'est dépouillé volontairement, pour un temps, de ses prérogatives divines, qu'il s'est humilié volontairement en acceptant son incarnation et ses limitations, c'est-à-dire en venant sur cette terre en tant qu'homme. Il le rappelle que son obéissance à la volonté du Père, important pour nous frères et sœurs, « Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie ? Seigneur, quelle est ta volonté pour l'Église dans laquelle je vis, j'évolue, je grandis ?» À la volonté du Père a conduit le Seigneur jusqu'au sacrifice suprême de sa vie à la croix. Il l'a fait par amour pour l'humanité. Il l'a fait pour eux et il l'a fait aussi pour nous, pour moi ce matin. Alors le Christ, par sa vie et par sa mort, leur a laissé, comme à nous ce matin, un exemple à suivre. Alors, voilà les mots que j'aimerais vous laisser, frères et sœurs, ce matin. L'accueil et la patience que Dieu nous a manifesté et nous manifeste encore, ça vous êtes conscients de cela, je pense, doivent ainsi se vivre au milieu de nous. Et s'il y a quelques concessions à faire, sans remettre en question nos convictions et les lumières reçues, pour être bien au clair là-dessus, s'il y a quelques concessions à faire, s'il y a quelques démarches à effectuer, quelques manquements à pardonner ou à se faire pardonner, eh bien faites-le. L'exemple du Seigneur Jésus est là pour nous montrer la voie à suivre. C'est cela la vie de l'Église. Vous savez, il n'y a pas de théorie. L'Évangile, le message du Christ, est un message qui est radical, pragmatique. Sinon, si on reste dans la théorie, non, l'Évangile est appelé à être vécu. Jésus un jour dira, je pense, vers la fin du sermon sur la montagne, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors, je laisse encore maintenant la parole à Paul, qui va toujours dans l'Épître aux Philippiens, qui plus loin leur dira ceci, après avoir abordé ces questions. Nous qui sommes des hommes faits, ou des femmes bien évidemment, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen.